Alors l'œuvre d'Henri Raynal a traversé la seconde moitié du XXe siècle en se tenant en marge de la notoriété, on a vu, mais une marge discrète mais étonnamment attentive au questionnement poétique, au questionnement des figures poétiques majeures de son époque. Poreuse, tout en résonance, elle a recueilli l'empreinte des débats qui ont secoué des années 60 aux années 90 l'histoire de la poésie, non sans affirmer sa pleine autonomie, son indépendance, sa souveraineté. De la sorte, parcourir les essais d'Henri Raynal, c'est entrer dans un territoire suscitant tout à la fois la sensation de familiarité et l'étonnement. C'est finalement retrouver, mais réinventer, énoncer dans une langue précise, personnelle, exigeante, les préoccupations fondamentales de cette génération de poètes née dans les années 20 et ayant commencé à écrire dans l'après-guerre, dans le champ de ruines de l'après-guerre. Donc la cosmophilie d'Henri Raynal s'inscrit de fait dans la pleine continuité de ce courant qui a plaidé pour la réconciliation avec le monde, en réaction, je dirais, à l'ébranlement du conflit mondial, une réconciliation qui met, pardon, dans le même temps, à distance, les sirènes du courant surréaliste. C'est ainsi que l'on peut voir s'entrecroiser, dans les pages des essais de Raynal, les lignes de force des œuvres de Philippe Jacotet, d'Yves Bonnefoy ou encore de Laurent Gaspard. Raynal partage, par exemple, avec le premier, donc Philippe Jacotet, l'attention extrême aux vibrations de l'infini dans le fini, et en cela, l'émerveillement pour l'infime. Il reconnaît d'ailleurs volontiers cette complicité et cette parenté. Comme le second, Yves Bonnefoy, il défend une langue poétique qui ne sacrifie pas le référent dans le signe, et ça je vais y revenir, on a déjà beaucoup parlé. Et à l'image du troisième, Laurent Gaspard, donc il refuse la solution de continuité entre science et poésie, bien plus, pour lui seul, l'accroissement de connaissances aiguise le sentiment d'émerveillement et corollairement la puissance d'exister. Et on voit là que le spinozisme inavoué ou à demi-avoué d'Henri Raynal rejoint le spinozisme affiché de Laurent Gaspard. Alors à ces points de contact manifestes s'ajoute un questionnement courant souterrainement dans l'ensemble de son œuvre et alimentant sa grande cohérence. Un questionnement qui fonde la modernité poétique depuis la génération qui lui a donné naissance dans les années 1860. Pourquoi le mot « jour » fait-il entendre des sonorités sourdes et ténébreuses et pourquoi « nuit » s'éclaire-t-il ? Comment combattre ce que Mallarmé nommait le « défaut des langues » et que Saussure a rebaptisé l'arbitraire du signe ? Comment donc plus largement la langue peut-elle faire entendre le monde ? Quelle est la nature de sa relation avec le sensible ? Quel degré de proximité entretient-elle avec lui? Bref, en fait, une langue cosmophile est-elle possible? Donc c'est à partir de ce faisceau que je me propose de traverser et d'interroger les essais d'Henri Raynal. Alors, d'origine linguistique, la question s'étend en fait au domaine de la poétique, de l'esthétique, mais aussi de l'éthique et de l'ontologie, et constitue une véritable armature, une charpente de sa pensée. Alors l'expression de pertinence poétique que j'ai choisie pour titre, là, que Raynal propose dans l'apparence infinie, rejoint très exactement ce questionnement. Défini donc à travers le double critère de justesse et de créativité, elle vise une forme de coïncidence ou d'adéquation entre langue et sensible. Donc j'ai pris la citation là que vous avez en haut de l'exemplier. Généralisons. Pour exprimer la double intention du geste qui confectionne le nouveau et en fait l'offrande, du dire qui se soucie de convenir, bien qu'il sache que ce qui est à dire est inépuisable, qui ne se contente pas de dire, qui invente afin de chanter, de célébrer, peut-être pourrait-on associer les mots poésie et pertinence, les réunir, de façon à former ce binôme, la pertinence poétique. Et dans le tout récent article offert au dictionnaire des mots manquants, c'est encore, me semble-t-il, cette interrogation qui revient sous la plume de Raynal, augmentée d'une réflexion qui lui est chère, sur le geste de don dans lequel s'inscrit pour l'auteur toute parole. Et je lis donc ces lignes, je vous livre les appellations qui me sont venues à l'esprit, sans qu'aucune l'importe, se sont présentées, la parole obligée, la parole explosante, publiante, passeuse, livrante, apparitrice, transporteuse, ou parole véhicule, déictique, didacte, révélante, la parole index, la parole servante. Donc on pressent déjà, dans le champ de cette interrogation sur l'arbitraire des langues et sur ses limites, toute l'originalité qu'amène Raynal. Loin d'être un simple passeur, il nourrit activement ce débat, et notamment par l'interdisciplinarité qui caractérise sa démarche. Donc, il va s'agir en fait ici de dégager la spécificité de la réponse qu'apporte la pensée de Raynal à ce questionnement fondant la modernité poétique. Et pour ce faire, donc, mon parcours est simple. En fait, je vais parcourir d'abord les textes théoriques, hein, permettant pour cerner, disons, les caractéristiques, les points d'application de cette langue sensible. Puis, en fait, après, je vais travailler sur la mise en pratique de cette pertinence poétique, en passant par le domaine de la métaphore, de nouveau, et de l'énonciation. Et ce sera l'occasion de parcourir quelques pages consacrées au paysage de Raynal, et en particulier à sa passion de l'élémentaire. Donc, je commence cette première partie intitulée « En réponse aux défauts des langues ». Donc, Raynal a publié ses premiers essais à l'époque même où le linguistique turn bat son plein, on en a déjà parlé. L'œil magique paraît en ce début des années 60, marqué par les publications fondatrices du structuralisme. Création de la revue Communication en 61, parution des essais critiques de Barthes en 64 dans la collection Telle quelle du Seuil, publication par Todorov de Théorie de la littérature en 65, qui est l'anthologie, on sait, des textes des formalistes russes des années 20. Alors, si Raynal récuse, certes, comme le rappelle Robert Misrahi, les contempteurs, les destructeurs du langage, il n'en conteste pas moins les fondements mêmes du structuralisme à travers une remise en question de sa théorie du signe. Saussure, on le sait, définit le signe à partir d'une relation arbitraire entre signifié et signifiant, le référent se trouvant potentiellement expulsé hors de la sphère du langage. Or, Raynal entend rejeter ce qui lui semble avoir pris valeur de dogme. Alors, c'est la citation qu'a lue ce matin Jérôme. « Quand se décidera-t-on à se défaire d'un sophisme qui jouit durablement d'un si large consensus qui a la valeur de dogme, si bien qu'on ne se lasse pas de répéter et souligner que le référent est absent du signifiant ?» Alors, loin de céder pourtant à un cratilisme naïf, je le cite, le cheval tangible n'a pas quitté le pré quand je prononce le mot cheval, il plaide pourtant pour une reconsidération des relations entre les trois instances du langage. Donc, très proche en cela d'Yves Bonnefoy qui propose d'écarter non le référent, mais le signifié, que Bonnefoy nomme le concept pour Bonnefoy, c'est le signifié. Raynal, donc, envisage une sorte de relation directe entre signifiant et référent, ce qui évidemment abolit les présupposés structuralistes. Alors, l'enjeu est alors, comme pour le poète de la présence, donc Bonnefoy, de soutenir une forme de continuité active ou de transitivité entre les mots et le monde et d'en déployer par ailleurs donc, toutes les implications. Alors le terme de référent trouve de fait souvent sous sa plume son équivalent dans des syntagmes comme cosmos, présence, tout, et donc l'exil linguistique prend en cela une valeur onto-écologique. Je cite, nous avons proscrit le référent, proscrit notre véritable, notre originel environnement, la profondeur cosmique. L'auto-réclusion est auto-exil, nous excluant de la présence. Cette onto-écologie revêt par ailleurs une dimension éthique, manifeste en particulier dans les essais regroupés dans « Ils ont décidé que l'univers ne les concernait pas ». Et c'est la citation suivante, « Catastrophique amputation morale, un gigantesque absent fait défaut à l'homme occidental qui, dans la mégalomanie des théories autoréférentielles, donc les voilà, sévissant en tant de domaines, a pratiqué sur lui-même l'ablation du tout, le voilà nu ». Donc la recherche de Raynal va résider, on l'a compris, dans l'ouverture du signe, et ce doublement, refus, comme on l'a vu, du postulat structuraliste et donc de ce signe autotélique, mais aussi extension de la réflexion sémiotique au champ éthique, écologique et ontologique. Il en va là, non d'un débat de linguiste, mais bien de la condition même de l'être au monde. Alors dans ce contexte, l'originalité de Raynal se situe, selon moi, à un double plan. Le premier réside d'abord dans la justification en fait, de cette réhabilitation du référent au moyen d'une vaste théorie de l'acte d'écrire, décomposée en étapes successives. On lit ça dans l'essai intitulé « Prendre acte ». Donc l'impulsion d'écriture est d'abord offerte parce que Raynal définit au moyen d'un glissement de termes de l'imposition à l'impression au sens matériel, puis à l'empreinte. La citation est la suivante, « Si je prends la plume, c'est parce que le monde... une chose, un être, un spectacle du monde, s'est imposé à mon intention, c'est bien d'une imposition qu'il s'agit. Une impression s'est opérée, le mot est à prendre au sens fort, s'éprouve l'effet du monde en moi, j'en porte en moi l'empreinte. » Donc, penser comme trace matérielle, l'origine de l'écriture reçoit en ça une pleine nécessité, et le geste d'écrire se définit bien comme une réceptivité, un accueil de l'altérité sensible. Le mot de recueil, d'ailleurs poétique, finalement on voit son sens étymologique pleinement justifié, éclairé. L'étape suivante correspond à la mise en mot, définie originalement comme une requête émanant du sensible lui-même. Donc le décentrement est total, le monde devenant source du dire et mesure du bien-dire. Donc donc c'est les citations suivantes, l'impression aspire à se dire, plus précisément à bien se dire, l'éprouver le monde, il s'éprouve en moi. Donc on voit bien que la continuité entre mots et choses relève moins d'une recherche subjective d'adéquation que d'une réponse à une sollicitation du monde qu'émandant l'écriture au service de sa propre perception. Donc cette seconde étape de l'écriture, si elle alimente là aussi le combat contre l'arbitraire du signe, conduit surtout vers le centre de la pensée poétique de Raynal, vers sa particularité inscrite, comme il aime à le rappeler dans sa propre histoire personnelle, la parole prend acte de ce qui est, elle ratifie l'existence et gagne en cela une responsabilité à l'égard du monde à laquelle Raynal donne une valeur éthique. Et c'est donc là la troisième étape du processus d'écriture qui, tout autant que les deux premières, conjure les postulats textualistes. Alors à cette pensée donc de l'écriture, comme procès impulsé par le monde et y revenant, s'ajoute, donc c'est le deuxième point que je voulais traiter, une reconsidération des relations entre nature et artifice. De fait, le glissement des termes est souvent fréquent sous la plume de Raynal. Le référent est rebaptisé nature, le signe est dit artifice. Et donc, c'est dans la conjonction entre nature et culture, naturel et artifice, que la question de l'arbitraire des signes est reconsidérée. Or, sur ce point, Raynal refuse de penser, on l'a déjà dit, une différence de nature entre les deux termes. Nature et artifice ne se distinguent que par le degré. L'un et l'autre restent consanguins, et le second se déploie à partir du premier. Il est saisissant, par exemple, de mettre en relation la double assertion suivante. Dans l'émulation originelle, la nature est présentée, je cite, comme la manifestation première de l'énergie fertile qui anime l'univers, quand l'entreprise humaine, technique ou artistique est une seconde manifestation de l'énergie naturelle. Or, dans la montagne et autres paradigmes, cette fois, l'artisanat et l'art sont qualifiés d'artifice premier, c'est-à-dire ce qui procède pour partie à la manière de la nature, à l'inverse, du second, esclavagiste, acharné à parvenir en tout domaine à l'exhaustivité du contrôle. Donc on voit bien, de façon assez simple, qu'en croisant les deux propositions, on fait se superposer la seconde manifestation de la nature et l'artifice premier. Donc l'échelle est bien continue, qui relie l'énergie impulsant les forces naturelles et les manifestations artistiques. Donc Raynal aime rappeler, du reste, on le sait, que certaines œuvres relèvent du naturel inventé, osant une forme de contradiction dans les termes, apte à rendre l'effet de naturel naturel produit par l'artiste. Ainsi en est-il, par exemple, des dessins de Dubuffet, hein, « Terre radieuse invente dans l'esprit de la nature ». Et par ailleurs, l'artifice est pour lui souvent présenté comme une émanation de la nature, lui servant de miroir actif. Hein, de même que, finalement, comme on a vu, le monde s'éprouve en moi quand j'écris, l'artifice agit sur la nature en retour, lui offrant le plaisir de se redécouvrir. Ainsi, par exemple, les arbres peints par Alexandre Holan permettent-ils finalement à l'arbre naturel de se réarboriser, de se réapproprier sa propre essence. Donc on pressent que Raynal, de manière similaire, envisagera une langue poétique qui serait ni un artifice, ni une simple émanation brute de la nature, mais bien sa conversion en un ordre de signes qui lui permette de se reconquérir. Alors un détour est possible, me semble-t-il, par le double modèle du vêtement et de l'étoffe, de paradigmes, selon l'expression de Raynal, qui fournissent certaines clés du rapport entre langue et sensible et permettent d'avancer sur cette question. Il est tentant, en effet, de transposer, finalement, dans la relation entre corps et vêtement, le rapport entre référent et signe. Finalement, le signe est aux références que le vêtement est au corps. Et de fait, Raynal insiste à plusieurs reprises. Le vêtement se doit d'être une expression du corps. L'innocence du paraître recourt au terme d'osmose entre le corps de chair et l'artifice. Plus loin, la fusion rêvée du vêtement et du corps est présentée comme une solidarité entre surface et profondeur. Bref, une telle compénétration heureuse du corps et de son enveloppe vestimentaire recoupe parfaitement les termes du débat sur l'arbitraire des signes, ce qu'atteste d'ailleurs le lexique employé, opposant le terme d'arbitraire rejeté et au contraire la pertinence appelée. Alors, c'est les deux citations en bas de votre papier. L'argument réducteur qui allègue l'arbitraire de la mode ne tient pas. Ce qui enchante, c'est la qualité du discernement qui a présidé à une combinaison opérée en vue de la formation d'un tout. Et à l'inverse, on lit, dans le domaine vestimentaire, aussi imprévisible que soit la composition individuelle finale, elle manifeste pourtant l'inventeur auquel est livrée par convenance profonde pertinence. Donc on retrouve ce terme de pertinence. Or, par ce détour, on découvre que cette incointance entre corps et vêtements, entre référent et signe, donne naissance à un troisième terme, un corps de substitution, une réalité autre, ni corps nu, ni vêtements inertes, mais art incorporé. Et c'est là sans doute le modèle le plus accompli de l'œuvre poétique. De même que Mallarmé en fait, définissait le vers comme le moyen de rémunérer le défaut des langues, le poème serait pour Raynal cette réalité conjurant l'arbitraire des signes, donc ni nature brute, ni langage réduit à lui-même, mais conversion de la nature en mots, donnant naissance à une réalité neuve, pleinement expressive. Alors, à une échelle plus réduite, la réflexion de Raynal sur l'étoffe conforte cette hypothèse. L'étoffe est pour lui le paradigme du continu. Il y aurait, selon lui, là, finalement, un modèle du langage que Laurent Gaspard, d'ailleurs, a lui-même rêvé aussi dans sa méditation sur le tissage. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, le structuralisme avait défini le texte à partir de son étymologie, le tissu, et ce, pour insister sur l'interdépendance des signes les uns à l'égard des autres. Or, Laurent Gaspard déplace le sens de la métaphore pour dévoiler la proximité entre les fibres organiques et la langue, et en cela défendre l'unité du vivant, dont la poésie l'expression. Et il me semble que l'inspiration de Raynal est très proche. Donc, je cite le pli, c'est la fin de la première partie, berceau, où une entité naît, creusée où une intimité se attire la durée, qui s'y dépose, où elle fait la lente expérience en laquelle se fonde ce qui l'entoure et elle. Comme bilan, là, on voit que les fils théoriques de la pensée de Raynal s'enchevêtrent étroitement, dévoilant leur grande cohérence. Raynal a repris le débat sur lequel la modernité poétique s'était lancée, il l'a repensé dans l'horizon de sa cosmophilie, l'a alimenté d'une réflexion sur l'écriture comme acte et sur la relation graduée entre nature et artifice. Donc il convient à présent de cerner les caractéristiques de cette pertinence poétique, d'esquisser quelques-unes de ces manifestations linguistiques en les associant au paysage de prédilection des proses poétiques de Raynal. Donc, la préface du Pays sur le chevalet propose une théorie de l'image, alors au sens rhétorique du terme, de l'image, de la métaphore, hein, aux accents d'art poétique. Intitulée « Réponse à quelques-uns », ces pages prennent le contre-pied manifeste des théories de l'image qui ont marqué la première moitié du XXe siècle. À la conception reverdienne, donc ensuite reprise et radicalisée par Breton, d'une image création de l'esprit, Raynal oppose en effet l'idée d'une image provenant du monde, c'est l'expression du texte, c'est là la condition de sa justesse, dit-il. Et Raynal aime à redire justesse et justice. Donc l'image serait finalement ratifiée par la chose qu'elle exprime. Alors la théorie est originale parce qu'elle entrelace en fait subtilement les sollicitations de l'imagination et celles du monde sensible. À l'origine de l'image, dit-il, le sentiment d'admiration que suscite le spectacle du monde. Cette admiration sollicite alors l'imagination qui vient nourrir ce spectacle premier. Et dès lors, je le cite, le spectacle poétique se couche sur le spectacle du monde. Donc l'image permet bien de redéployer le monde et en cela de le voir surgir authentiquement. Donc elle ne creuse pas l'écart avec le monde, elle ne permet pas de s'en affranchir, ce qui était le mot d'ordre des surréalistes. Elle ne relève pas d'une conception nominaliste, et on songe à la célèbre question de Breton dans le discours sur le peu de réalité, le monde ne dépend-il pas de notre pouvoir d'énonciation? Non, bien au contraire, l'image pour Raynal est le moyen paradoxal de s'approprier, de s'incorporer le monde sensible. Or, c'est là très exactement le sens de ces approches qui ont ces dernières années défendu le pouvoir redescriptif de la métaphore. Michel Delis pense le redéploiement figural du monde à travers l'image poétique. Michel Collot, ici présent, évoque quant à lui la référentialité seconde résultant de la métaphore. Donc Raynal me semble rencontrer finalement ses conceptions. L'image est chez lui un détour créateur au service de la plénitude sensible et s'originant en elle. Alors qu'en est-il, bien sûr, des images privilégiées par Raynal ? Surabondantes, tissant l'ensemble de ses proses poétiques et expression d'un plaisir manifeste de vivre et d'écrire, elle présente d'abord cette particularité de se construire en réseau, se ramifiant, s'entrelaçant, se répondant en écho. La robe montagne, les troupeaux de rochers, les grappes d'îles, les métaphores topiques tissent alors le monde sensible, font dialoguer les éléments premiers et finalement croisent aussi les facultés sensorielles sur le mode de la synesthésie. Donc elle témoigne finalement à elle seule de l'unité du monde sensible. En remotivant des métaphores topiques, Raynal rappelle donc leur pleine nécessité, nulle gratuité ludique, ni nul ornement, disons, dans la métaphore, celle-ci est l'expression, plus encore la manifestation de la plénitude et de la continuité sensible. Lorsque, ainsi donc, dans la prose poétique qui ouvre le pays sur le chevalet, qui s'intitule « Large », qui est consacrée au paysage des Côtes d'Armor, lorsque donc Raynal insiste en fait sur le caractère amphibie de la côte, il joue en fait sur un glissement permanent entre la description d'une frontière indécise entre terre et mer et l'évocation métaphorique dans leurs noces communes. Étrange pays, mixte, amphibie, où se font des politesses à n'en plus finir une mer venue à la campagne pour s'y détendre, s'y assoupir, y vagabonder, et une campagne inversement qui se paye la mer. Les bateaux, je te l'ai dit, sont affalés sur l'herbe, sur un gazon, fait de plantes avides de sel, et derrière telle herse tournante qui travaille d'arrache-griffe à extirper les pommes de terre, les mouettes, quittant la plage, s'abattent en criant et s'alignent pour surprendre quelques nourriteurs rampantes dans les derniers sillons ouverts. Quelle familiarité ici, entre le continent et l'océan, il semble qu'ils ne puissent se résoudre à se séparer. Il me semble qu'il y a ici, dans ces noces sensibles, aussi une réminiscence des pages célèbres de Proust sur la métaphore dans le « À l'ombre des jeunes filles en fleurs », sur le port de Carquetuit, ici. Ce mélange des termes marins et terrestres. Et par ailleurs, donc, deuxième caractéristique dans la métaphore, Raynal aime faire surgir un paysage neuf en amenant le comparant avant son comparé. C'est le cas, par exemple, dans la première page de « Sur l'or de la nuit ». Donc, on lit d'abord « J'ai vu les monts basculer, se renverser, j'ai vu danser les monts, se porter d'un côté puis de l'autre, ainsi que danseurs endiablés. » Et par un changement d'échelle singulier, la montagne, en fait, se transforme progressivement en robe, ou plutôt se dévoile robe, rafale d'étoffe, migration des vallées, nomadisme des crêtes, etc., propagation d'une métamorphose, celle du paysage mobile de laine, de cotonnade, de mousseline, de soie. Et donc, on voit que c'est finalement l'effet suscité par le vêtement, fascination, surprise, que par ce moyen la métaphore parvient à rendre. Elle n'est pas tableau statique, disons qu'elle porte jusqu'au lecteur une puissance émotionnelle, un degré d'émerveillement, une énergie d'existence et bien transmission. Alors la seconde caractéristique saisissante, enfin de cette pertinence poétique, enfin, le second point sur lequel je voudrais insister, est de nature cette fois énonciative, mais elle est aussi étroitement liée au paysage de prédilection des proses poétiques de Raynal. Donc un tout petit détour pour revenir vers l'énonciation. Donc les pas de Raynal se portent, on le sait, vers ces bouts du monde. Ces espaces premiers, sauvages, dans le Finistère, étymologiquement Finistère, et ses abers, ou dans les Hautes-Alpes, sur les versants de la Meije, dont a parlé Michel hier. Alors le référent géographique est certes parfois nommé, mais il gagne surtout au fil des pages en présence vive, âpre et raboteuse, hérissée de rochers. Car c'est là, à l'évidence, l'un des éléments de prédilection de Raynal. La pierre est omniprésente, elle qui relie du reste Raynal à ses poètes qui, de bonne foi à Gaspard, de Jacques Dupin à Guy Vic, l'ont élu comme élément privilégié. C'est d'abord le contact premier, tangible, immédiat, avec le monde matériel dont la pierre est, contre toutes les évasions imaginaires, le garant incontestable. Et il écrit hein, retrouvons le contact de la pierre au rayonnement austère, abîme vivant, clos, étanche, hermétique, vertige et certitude là, sous notre main. Or, cette présence âpre, franche, est aussi étrangement dépossédante, car la pierre conjugue l'évidence la plus immédiate et, pour Raynal, loin, le mystère le plus vertigineux. Elle qui questionne le sens de notre présence au monde, dans ce glissement de la physique à la métaphysique qu'on sent dans la citation suivante, « Pierre concrète au possible, physique superlativement, mais pas seulement, pierre morceau d'absolu, là et soustrait, retiré. » Donc il s'agit de penser paradoxalement au cœur de l'humain ou du sans-témoin, la condition de l'homme au monde, cette appartenance au secret, abîme impensable qui cerne la conscience et le modèle. Dès lors, et donc c'est le point que moi je vais retenir, ces paysages minéraux, on constate qu'ils sont toujours, pour Raynal, approchés à travers la conjonction paradoxale de leur mutisme et de leur prolixité. Nulle incompatibilité entre le mutisme souverain et la prolixité. Dans la montagne que l'abîme a détachée auprès de nous, ils sont l'envers et l'endroit. Et plus loin, le mutisme de l'univers est disert, volubile. Donc les termes sont essentiels, puisque dans cette rencontre entre silence et parole, dans cette articulation infinie du mutisme, c'est l'expression de Raynal, se trouve bien relancée, aiguisée, finalement, la question de la pertinence poétique. Alors, comment rendre cela, finalement, un silence prolixe? Et cette fois, c'est, me semble-t-il, par des choix énonciatifs que Reyna semble répondre. Il s'agit, en effet, de faire surgir le silence, donc de le manifester en acte, et de rendre dans le même temps ce silence prolixe. Alors, on remarque, dans cette perspective, que la longue prose poétique, intitulée « Dans le secret », s'ouvre sur un jeu féminin dont le référent se dérobe. Donc cet être logé dans la pierre, lui appartenant hein, par ses chaînes qui forment son lien avec le monde, relève, alors peut-être pas d'une espèce inconnue, mais d'une identité inconnue, fait surgir en tout cas une parole sans origine identifiable. Donc l'effet de lecture est saisissant. Non seulement ce choix énonciatif permet de suggérer la présence de cet être sans répondre à la question de son identité, mais bien plus, il le fait advenir, il lui offre l'existence. Et le titre de cette prose poétique s'en trouve alors pleinement justifié. Dans le secret, finalement, fait naître un être, demeurant dans l'énigme de l'absolu. Alors on serait tenté justement de rapprocher ce texte de deux séquences du Pays sur le chevalet. Le Rêche, le raboteux, s'ouvre sur une première page de phrase dépourvue de sujets grammaticaux. Donc en fait, le prédicat est livré, mais pas le sujet. Donc, et ce, à partir de, à travers des verbes au participe présent, donc je vous ai mis au début, de sa ruine même tirant profit, tournant son abaissement en expansion, arborant l'épreuve de son déclin, les faisant servir à sa majesté. Donc, c'est là encore l'effet du paysage d'ébouli sur le spectateur, hein, qui est rendu sensible finalement au lecteur, par cet escamotage finalement du sujet. Et large, quant à lui, dernier exemple, se présente comme une série de lettres adressées, mais l'identité de l'auteur se dérobe et hésite d'ailleurs d'une page à l'autre entre masculin et féminin. Et cette voix donc incertaine, plongeant dans l'immensité marine, s'en délectant, appelant son correspondant en partage de cette intensité sensorielle, offre en cela au lecteur les conditions d'une véritable renaissance. On lit « J'en sors nouveau, rassemblé, pacifié et rajeuni, alerte et solide, dru et léger ». Donc on saisit en définitive toute la portée de ces choix énonciatifs. Loin de s'en tenir à une théorie du signe, Reynal pense l'écriture en termes pragmatiques. Il s'agit d'envisager un acte qui déborde les frontières du texte et se pense comme effet sur le lecteur, mais aussi sur le monde. Et c'est là, du reste, le sens du commentaire qu'il consacre à l'œuvre poétique de Bernadette Angèle Roux, dans un texte qui s'intitule « La parole déléguée » que Henri Reynal m'a envoyé, je le remercie, écrit à l'occasion de la parution du recueil « Aube ». Reynal propose une belle méditation sur les paysages montagneux de la poétesse, ces paysages qui sont, explique-t-il, son interlocuteur. Et là encore, le monde sensible surgissant dans le poème s'offre littéralement à nous. Donc il écrit, sa dernière citation, « En de tels instants, le monde, ou une chose isolément, et comme il ne l'est jamais ordinairement, présent véritablement, à ce point l'étant parce qu'il se présente, advient, paraît, dans le regard prend place, telle une apparition. » Donc, en conclure, sinon que, finalement, la réflexion sur la pertinence poétique débordant largement le cadre étroit d'une pensée du signe linguistique, s'entrelace au contraire à ce que Reynal a baptisé l'apostolat pur. Le monde nous requiert pour être dit. Nous portons la responsabilité de prolonger le dire de ceux qui nous entourent, des écrivains qui nous requièrent, mais aussi du monde sensible, de l'armoise, de l'éboulis rocheux, de la cascade puissante ou du galet oublié. Autant d'êtres auxquels nous sommes indissolublement liés, dont la parole nous traverse secrètement. Donc c'est là finalement l'origine, la justification et la raison ultime de la pertinence poétique. Voilà, je vous remercie.